Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. On est toujours sur... Alors, on n'est plus en confinement. On est en train de sortir gentiment du confinement. On est le mardi 12 mai. Mais je continue quand même mes épisodes spéciaux Covid-19 parce que je trouve que ça reste quand même un sujet chaud bouillant et ça mérite quand même de continuer à faire le tour de l'industrie, de la mode, de la cosmétique pour comprendre comment les acteurs réagissent et agissent pour sauver ce qui peut être sauvé ou pour changer leur modèle économique, leur business. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui est déjà passé dans Entreprendre dans la mode. C'était un épisode qui était génial d'ailleurs. Elle s'appelle Sarina Lavagne et c'est la fondatrice de Prescription Lab. Salut Sarina.
Hello, salut Adrien, c'est avec plaisir que je te retrouve.
Bah ouais, moi aussi. La première question, c'est comment toi tu vas? Comment s'est passé ton confinement d'un point de vue très personnel? Et puis après, on parlera du business.
Alors, d'un point de vue très perso, ça va très bien. Écoute, ça a été bien speedou comme pas mal de gens pendant quelques semaines, mais c'était passionnant et j'ai eu la chance de pouvoir ne pas être à Paris. Donc, j'ai profité d'une autre type de vie, plus en famille et pas du tout urbain. Donc, écoute, ça va bien. Et puis, comme tout le monde, on reprend un mode de vie qui est, tu le disais, on n'est plus dans le confinement, mais on n'est pas non plus dans la vie d'avant. Donc, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre.
Exactement. J'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière. Depuis notre enregistrement, il y a pratiquement un an et demi maintenant, peut-être même deux ans, parce que tu étais un des premiers épisodes, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui s'est passé chez Prescription Lab? Comment ça a évolué? Et puis, dans un deuxième temps, on parlera de l'annonce du confinement et quel a été l'impact sur votre business?
Ok, alors écoute, c'est vrai que ça fait longtemps, la boîte a grandi, elle est devenue plus mature. Maintenant, en effet, on a 3 ans et demi, donc on a construit une vraie grande communauté. On est à plus de 25 000 abonnés, c'est des femmes qui nous connaissent donc depuis 3 ans et demi. Elles sont très fidèles, donc on a un vrai dialogue avec elles. On a boosté notre marque propre, et ça c'était un des trucs dont je te parlais, qui me tenait vraiment à cœur, c'était la DNVB Prescription Lab. Voilà, donc en fait, tu parlais à quelqu'un qui commençait à avoir un petit business balbutiant, et là c'est une vraie marque qui s'installe dans le paysage, on va dire, un peu beauté des Français. Et on se risque doucement au retail physique. Tu sais qu'on était vraiment très digitaux. On est vendu, là, il va réouvrir au Monoprix des Abbesses. Et on va être bientôt vendu dans une centaine de monop au rayon Parapharma en France. Mm-hmm. Donc voilà, on va toucher d'autres femmes encore.
Génial. Et ça faisait partie du plan initial, ça, d'aller sur le retail en marque propre?
Oui, alors ça, oui, depuis toujours. Mmh. C'était pas forcément Monoprix, c'est canon, ça a été la bonne nouvelle parce que c'est une marque que j'adore et dans laquelle je vais souvent. Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment en tête, en tout cas, d'essayer d'être disponible ailleurs. Je pense que ça touche d'autres femmes, donc c'est hyper complémentaire des abonnés, des premières abonnées qui sont des filles hyper digitales, réseaux sociaux, etc. Mais là, dans les Monoprix, d'après les premiers signes qu'on arrive à voir, on touche des filles qui déjà préfèrent manipuler le produit, préfèrent un petit peu l'avoir entre les mains avant de passer le pas du digital. Et tu touches aussi des nanas qui me ressemblent un peu plus. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, sur Facebook à cause de mon métier, mais il y a plein de nanas qui sont des mamans et qui bossent et qui n'ont pas le temps de passer autant de temps à faire du trendspotting ou aller repérer des petites marques naissantes. Et c'est vrai que Monop, pour ça, c'est une jolie caution, donc on est assez contents.
Génial, bah, bravo. Le Covid-19, comment tu as appris la nouvelle? Enfin, quelle a été ta réaction à l'annonce de ce Covid? Est-ce que vous l'avez vu venir? Et comment vous avez réagi dans les premières semaines du confinement?
Alors, le Covid, moi, je t'avoue, je suis alertée là-dessus depuis pas mal de temps parce que mon chéri travaille dans les panneaux solaires et il travaille donc beaucoup, notamment avec la Chine. Bon, il s'occupe, c'est un métier assez technique, mais peu importe, il vend du polyphosphate monocristallin. Bref, c'est une matière première qui sert à faire des panneaux solaires et donc il suit beaucoup la Chine parce que c'est à la fois des constructeurs et des concurrents. Et lui, il va souvent en Chine et il me disait, oh, oh, c'est un truc assez grave qui se passe là-bas. Il l'a pris au sérieux dès le début. Surtout qu'il me dit, les gens comme les Chinois, ils bossent énormément. S'ils ferment des usines, s'ils ferment des régions, c'est que c'est un truc sérieux. Et donc, il me disait, le gouvernement minimise, mais il n'y croyait pas du tout dès le début. Donc, moi, je l'ai pris assez vite au sérieux dès le début et c'était pareil pour la team. On s'est tout de suite dit, oula, il y a un souci, etc. Donc, ça, c'était le premier truc. Le deuxième moment où on a commencé à se rendre compte que c'était sérieux, c'est qu'en août, on a beaucoup de fournisseurs en Italie pour la beauté, notamment le make-up. Et les fournisseurs italiens commençaient à fermer les usines les unes après les autres, etc., etc. Donc, avant, bien, peut-être un mois avant la France, facilement 3 semaines. Donc, on s'est dit, oula, c'est galère. Les mecs ferment les usines, ils répondent pas, ils sont enfermés chez eux, etc. Donc, on a commencé à se dire, nous, un, en termes d'appro, c'est galère. Et deux, il y a vraiment un souci. L'Italie, c'est à côté. La Chine, ça, tu dis, OK, c'est grave, mais c'est un peu loin. C'est terrible à dire, mais on se dit que c'est loin. L'Italie, c'était à côté. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré dedans, plus par des problématiques business, etc. Et le lockdown, moi, je t'avoue, oui, on s'en est douté, en fait. Moi, c'est aussi pour ça que je suis partie de Paris, parce que j'ai une petite et je voulais pas être enfermée dans un tout petit appart à Paris. Et je me suis dit, ils vont fermer quand on voit ce qui s'est passé en Chine. Je t'avoue, je pensais même que le confinement serait plus dur en France. En fait, c'était dur et chiant à vivre, ok, mais le gouvernement, ils n'ont pas envoyé l'armée comme en Italie ou en Chine. Voilà, donc c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Même maintenant, je me pose beaucoup de questions sur la suite, sur les séquelles que tu peux avoir quand tu l'as eu, sur quand il y aura un vaccin, quel type de vaccin tu vas avoir, etc. Moi, c'est vraiment un truc qui me questionne parce que je me rappelle au début du confinement, quand on s'est dit avec mon équipe, OK, on prend nos sacs, on reviendra probablement pas lundi, etc. C'était un peu lunaire comme beaucoup de gens. Je me rappelle avoir échangé avec un mec dans le couloir, il me fait, oui, mais bon, ça va pas durer longtemps, les Italiens, ils ont mal géré, blablabla. Bla, bla. Et je me suis dit, mais le mec, il est fou, il est complètement à la masse. Moi, j'avais des amis en Italie aussi qui me disaient, tu sais, on mettait beaucoup ça sur le fait que l'Italie avait un très mauvais système de santé. Alors, peut-être au global, c'est pas fou. Mais quand tu regardes Milan, Venise et compagnie, ils ont un système de santé qui est très, très bien. Donc, en fait, moi, mes amis italiens me disaient, on a un très bon système de santé. Non, non, c'est un virus qui tue. Et je me rappelle, ils avaient dit, ouais, enfin, quand même, les Italiens, ils en sont à 7 ou 8 000 morts. Ce but, non, on en ira jusque, on sera jamais jusque là. Et là, à date, on est quoi? On est à 25 ou 26 000 en France. Sans compter les gens autour. Donc voilà. Donc, t'as un choc qui est quand même humain, qui est dur. Je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens derrière ces 25 000 familles en deuil. Et après, la question qu'on se pose tous, c'est, comment on réinvente l'après, comment va réagir le consommateur, comment va réagir le marché. On sait tous aussi que économiquement, on a tous. Alors nous, on l'a pas fait parce qu'on a marché à plein pot. On a eu zéro chômage partiel, etc. Ou même on a tous bossé à temps plein sur prescription. Mais on sait que là, l'économie est picousée par l'État. Qu'est-ce que ça va devenir dans les mois qui viennent, etc. Les aides vont s'arrêter de tomber et le chômage technique, etc. va s'arrêter. Donc je pense qu'on est tous dans une période où, voilà, il y a une espèce de coup de pied dans la fourmilière qu'on n'attendait pas et il va y avoir une grosse redistribution des cartes, je pense, et ça va être, on sait tous, assez sanglant après. Il suffit de regarder 2 minutes la télé pour qu'ils vous le disent.
Dans quelle mesure le business a été vraiment impacté pendant cette période, pendant les 2 derniers mois? J'ai l'impression que finalement, la cosmétique, c'était un des grands gagnants, si on peut dire, si on peut utiliser ce terme-là, de cette crise. J'ai l'impression que les gens ont voulu prendre soin d'eux et quand on fait de la cosmétique, c'est quand même pas mal quand les gens veulent prendre soin d'eux, non?
Ouais, je t'avoue, ça a été le point hyper positif qu'on a découvert pendant cette crise. C'est que, donc, au départ, tu vois, on a mouliné les chiffres, les PNL, les machins, les trucs et tout, en se disant, OK, où est-ce qu'on va atterrir dans les mois qui viennent? Et moi, j'étais plutôt conservatrice en disant, attention, c'est un moment où les gens vont se questionner, ils vont se rabattre. On le voyait bien, tu sais, les achats de riz, de pâtes, de papier toilette. Donc, voilà. Et je me dis, bon, ils vont peut-être couper sur des dépenses un peu somptuaires. Alors, peut-être, en tout cas, nous, ça n'a pas eu lieu, mais peut-être que certaines personnes ont fait au début. Et au bout d'un moment, en effet, tu te dis, il faut prendre soin de moi. Je suis mon seul capital, en fait. Je pense que ça, tu en reviens à des pensées assez basiques. Et donc, il y avait un double avantage, c'est que, un, les gens, et surtout des femmes, avaient un peu de temps. Alors, pas toutes, et même moi, avec un kit dans les pattes, c'était pas forcément facile, mais tu voulais t'accorder un petit moment pour toi. Mmh. Et tu voulais, en effet, prendre soin de toi, dans le sens où tu te dis, ben, ma santé, j'en ai qu'une, etc. Et ça, c'est vrai que c'était une vraie belle surprise. Alors, surtout pour les marques de soins. Je crois qu'en make-up, ça se passe un peu moins bien sur les marques qui sont exclusivement maquillage, évidemment. Parce que t'es chez toi, qu'il y a personne pour te voir, donc si t'as, voilà, juste tu fais le minimum. Mais les marques de soins, ouais, ça a bien marché. Et surtout, je pense, si t'étais sur des gammes de prix assez accessibles. Nous, sur prescription, voilà, on a eu un effet qui était même qui a été positif, dans le sens où les fidèles nous ont pas quittés parce qu'elles nous ont dit « on vous aime, on tient à vous, je coupe pas mon abonnement, on vous soutient, même s'il y a des problèmes de livraison parce qu'il y en a eu un petit peu, il y a eu des cafouillages, ben voilà, j'attends ma box et je reste ». Et il y a d'autres femmes qui nous ont découvert en se disant « ben tiens, c'est un petit plaisir pas cher ». Et je pense aussi, je me permets, je réfléchis en te le disant, mais qu'il y avait un besoin de rassurance. On n'était pas une jeune marque. Notre force aussi, voilà, dans tout ça, c'est qu'on avait donc 3 ans et demi, voilà, depuis le temps qu'on s'est parlé. Donc, les gens n'étaient pas en train de se dire, tiens, est-ce que c'est une marque sérieuse ou pas? Ouais. Je pense qu'il y avait vraiment besoin de rassurance.
Vous êtes établi maintenant.
Et il y avait un côté besoin. Ouais, exactement. Et un besoin de marque naturelle. Je pense que toutes les marques naturelles et bio ont eu un effet positif parce qu'on se rend compte à quel point la santé, c'est fragile et on, voilà, on fait attention.
Trop bien.
Je pense que c'est sûr. Ça.
Et tu disais qu'il y a eu 2-3 cafouillages sur les livraisons, mais pas de rupture de produit a priori.
Non, nous on n'a pas eu de rupture. Ce qui était bien, c'est que notre entrepôt a marché tout le temps, donc au ralenti, parce qu'évidemment, ce qui compte en premier avant même la sécurité de ton consommateur évidemment est capitale, mais la sécurité de ton employé encore plus. Donc l'idée, c'était de faire passer des équipes qui bossaient plus à 100%, mais 50% d'équipe pour tourner. Avec des gants, avec des masques, etc. Donc tout ça, ça a mis du temps. Donc tout a tourné au ralenti, en fait. Mais ils n'ont pas lâché. Ça, c'était super, de la part de notre atelier qui confectionne les box. Et après, la poste n'a pas lâché non plus. Il y avait, évidemment, il y a eu du retard, etc. C'est un peu plus compliqué pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de colis qui sont en attente de livraison, etc. Mais dans l'ensemble, tout a marché au ralenti. Mais on n'a pas eu de chaînon qui nous a lâché. Exactement. Et nous, ça a été un parti pris dès le début. On s'est évidemment posé la question de se dire est-ce qu'on arrête ou pas, et on s'est dit ben non, en fait nous on l'a vu comme plutôt un engagement. On est une marque de service, on va chez les gens, et on s'est dit ben justement au moment où les filles tous les lâchent, etc., ben c'est un peu le moment d'être là, d'être présent pour notre communauté, de la divertir. T'as vu, toutes les marques ont fait ça, mais on s'est éclaté à le faire. Et Eline, notre community manager, s'est régalée, c'est à faire des agendas de je fais du sport, je fais des brownies, des trucs comme ça. Enfin voilà, on a tous essayé de rendre ce moment-là un peu plus léger, en se disant ben au moins essayons de sortir de là avec quelques skills en plus.
Justement, tes équipes là, comment elles ont vécu ce télétravail? On parlait juste avant d'appuyer sur le bouton record que finalement ce confinement, ça a obligé tout le monde à comprendre, à apprendre le télétravail, et que finalement c'était quand même un truc plutôt positif, quoi.
Alors c'est ça, moi j'avoue, je pense que les équipes l'ont bien vécu. Après, on va se manquer, tu vois. C'est-à-dire que nous, on équipe, on dialogue beaucoup, on est tout autour d'une table, on rigole et tout. Donc, je pense que, ouais, exactement. Donc, ce qui nous manque, c'est de se voir, de rigoler ensemble, de se prendre le chou aussi au passage. Mais le côté humain nous manque. Après, le boulot, moi, j'ai eu de la chance là-dessus, et c'est pour ça, ça fait aussi longtemps qu'on bosse ensemble. C'est que j'ai des équipes hyper autonomes qui sont canons. Et donc, t'es pas là en train de faire du flicage et du machin. On était toutes en train de dépoter sur 1001 sujets. Donc, ça, c'était super. Et je pense, c'est ce qu'on se disait, c'est que le positif de tout ça, c'est que, en France, où t'as souvent, et moi je suis pas du tout là-dedans, mais un espèce de management, de petit chef à la petite semaine, enfin pas tout le temps, mais ça reste quand même vachement de je vais dans le détail, de est-ce que t'es là à telle heure, est-ce que machin et tout. Là, en fait, le home office, t'es sûr d'efficacité pure. Quand tu as tout le monde sur ton Hangout ou sur ton Zoom, c'est pour apporter de l'information, c'est pour échanger. Il n'y a pas de, enfin voilà, t'as pas d'effet de manche. T'es là pour bosser, et que les gens commencent à 10h du matin ou 11h, finalement, on s'en fiche. L'idée, c'est qu'ils soient OP après. Je trouve ça cool. Et le fait aussi que, moi, je vois dans mon équipe, certaines filles aussi ont pu partir dans leur famille, etc. Ben, tu vois, tu peux très bien bosser en n'étant pas à Paris, finalement. Là, ça s'est fait de façon forcée. Et donc, ce qui était dur, c'est un peu le manque d'anticipation, etc. Et ça nous manque, voilà, pas se voir en 8 semaines, c'est quand même très bizarre. Mais après, te dire si une fille veut aller bosser en province et qu'elle revient une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, faire et neuf, si c'est bien fait, ça marche très bien. Et j'espère que les boîtes françaises vont se tourner vers ça et qu'on va pouvoir, en tout cas, passer de, peut-être pas du zéro à tout, mais en tout cas l'introduire de façon intelligente dans nos façons de travailler.
Alors là, on est en période de déconfinement, mais la réalité, c'est que alors le gouvernement suggère fortement de continuer le télétravail. Et qu'est-ce qu'il en est chez vous ? Est-ce que vous continuez à distance ? Est-ce que tu restes dans ta campagne ? Est-ce que les filles qui bossent avec toi font la même chose ?
Oui, alors écoute, moi je reste dans ma campagne. Alors c'est un mélange des deux, c'est au bon vouloir des uns et des autres, mais en fait, en gros, la règle, c'est en effet le télétravail. Il y a eu une expédition ce matin d'une partie de l'équipe qui est partie chercher des affaires au bureau parce qu'on ne pensait pas qu'on serait out si longtemps. Et donc nous, il faut qu'on produise des visuels, des choses comme ça. Donc on a du matériel purement à prendre au travail. Mmh. Je sais qu'il y a quelques filles qui sont plutôt seule. Moi, c'est vrai que c'était plutôt l'inverse. Comme j'ai une petite dans les pattes, je peux pas dire que j'ai été seule souvent. C'était même plutôt ça qui était embolisant pour travailler. Mmh. Bosser avec tes gosses, honnêtement, c'est un bon cracking aussi. Mais voilà. Et je sais qu'il y en a d'autres qui nous ont dit aussi, ben, moi, je suis toute seule chez moi depuis 8 semaines, je m'emmerde, j'ai envie d'autre chose, etc. Donc, pour ces filles-là, en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de faire une espèce de double truc. C'est si elles veulent, elles peuvent retourner au travail. Il n'y a pas de souci, les bureaux sont ouverts. Et après, il y a un entre-deux pour éviter trop de transports en commun. Moi, je t'avoue que je trouve ça pas encore tip-top, cette histoire-là. 60% des métros, ils sont blindés, etc. C'est un peu débile. Et c'est dangereux encore. On sait que l'épidémie est à deux doigts de repartir et surtout à Paris. Mais on va essayer de voir avec des hôtels et des bars avec qui on fait des partenariats s'ils peuvent pas nous prêter juste, entre guillemets, des salles de réunion. On sait que derrière, on a des events qui sont prévus avec eux, des choses comme ça, et ils sont plus dans le centre de Paris. Donc, se donner rendez-vous dans d'autres endroits, en tout cas, que le travail, mais se voir, ça c'est sûr. Même moi, là, j'ai un déj ou deux prévus avec des filles de l'équipe. On va se voir, mais en one-to-one, c'est plus forcément d'ailleurs le bureau, l'endroit de la rencontre, en fait. Tu peux bosser un peu partout. Maintenant, il faut qu'on puisse se donner rendez-vous à d'autres endroits dans Paris. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça va être ça, tout joint, c'est sûr. Voire même juillet, et comme on s'est dit qu'on allait prendre des bonnes vacances en août pour se remettre bien dedans, je pense qu'en fait, le vrai retour au bureau, ce sera septembre. Et encore septembre, ça va être sous condition. Tu sais que j'apprends qu'il y a plein de boîtes américaines qui disent à leurs employés, les gars, vous ne reviendrez pas au bureau avant 2021. Donc en fait, voilà. Donc écoute, on va voir. Mais moi, en tout cas, je suis pour les rendez-vous chez les uns, chez les autres, dans des hôtels quand ils pourront nous recevoir, enfin ou même dans un parc dès que ce sera possible aussi. Voilà, en tout cas téléporter se mettre plus de physique, mais peut-être téléporter et pas faire ces espèces de gros mouvements de d'heures pleines, de rush hour à 8h30, 9h du matin et pareil à 18h30, 19h le soir. Je trouve que ça, il faut qu'on repense la ville. Pour moi, c'est même, tu vois, je me disais, c'est au niveau de la mairie de Paris. Il faut, pour étaler la densité de population dans les transports en commun, qu'ils obligent les gens à venir à des horaires différents, limite qu'il y ait des bonus et des malus en disant, ben voilà, tu peux prendre ton train entre 8h30 ou ton RER ou ton métro et ton bus entre 8h30 et 9h30 du matin, ben ça peut être ça, genre deux fois par semaine. Les autres fois, c'est à toi de te débrouiller pour décaler tes horaires. Une copine me disait là dans une boîte de mode justement, dont je tairai le nom, qu'on leur a demandé à tous d'être à 9h20 au bureau ce lundi hier. J'ai trouvé ça lunaire. Je me suis dit, ok, les mecs, ils ont juste rien compris, quoi.
Ouais, c'est ouf.
Faut aménager tout ça. Faut assouplir tout ça, aménager tout ça.
Et alors, c'est peut-être difficile de s'en rendre compte encore, mais est-ce que tu as l'impression que les gens sont plus efficaces, plus heureux, ou en tout cas plus épanouis dans leur job en travaillant comme ça? Enfin, est-ce que le télétravail, c'est vraiment le futur du travail ou finalement pas?
Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Alors, il y a confinement et télétravail, attention. Ouais. Le confinement, c'est-à-dire de bosser en faisant le ménage, la tambouille, en faisant l'école pour tes gosses, c'était pas foufou. On va se le dire, mais on n'avait pas le choix, c'était une question de survie. Donc ça, moi, j'avoue, voilà, dès que les écoles peuvent reprendre, j'ai hâte de récupérer, voilà, parce que ça te faisait des espèces de journées extensives où tu relis tes mails à 22h quand t'as couché les gosses. Enfin, ça, c'était difficile. Ouais. Par contre, en effet, moi, je pense sincèrement que, en tout cas, pas que ça, mais plus de home office, c'est en effet la voie de l'avenir. Je vois que ça, en fait. Tu te rends compte que les villes, les loyers sont dingos. qu'on habite dans des apparts petits dans lesquels on étouffe, que derrière il y a des temps de transport qui sont mais fous aussi, dans des conditions qui sont pas extraordinaires. Donc je pense qu'un des moyens d'alléger tout ça, c'est évidemment de faire plus d'home office. Pas forcément 100%, je pense que c'est ce que je te disais. Les gens sont heureux quand ils ont pu s'échapper, là j'ai pas de soucis. Je sais aussi que j'ai plein d'amis qui sont saoulés. Si j'étais restée à Paris dans mon petit appart avec ma gamine en train de péter des câbles à l'intérieur, ça aurait été beaucoup plus dur. Donc voilà. Mais si tu peux l'organiser de façon intelligente et au lieu de te dire je perds une heure facile, 1h20 par jour dans le métro, je bosse bien de chez moi, mon gosse est à l'école et cette 1h20 je la mets dans apprendre un nouveau skills, dans faire du sport entre midi et deux, etc. Très bien. Moi je pense qu'il faudrait limite faire 50-50 en vrai. Zéro, je sais pas, mais t'as aussi besoin d'interaction humaine avec les gens de ton équipe, t'as une forme de créativité, de brainstorm un peu en moment direct, ils se font pas de la même manière. Mais ce serait, tu vois, tu me dis, tu viens 2 jours par semaine au bureau et tu fais 2 jours et demi à la maison, enfin tu vois, 3 et 2, ou 1 semaine sur 2, je trouverais ça vachement bien. Ça ferait moins de monde dans les métros, ça ferait moins de pollution pour ceux qui prennent le métro, mais ceux qui prennent les bagnoles, ce serait moins polluant. Je pense que ça permettrait aux gens de penser leur mobilité autrement quand ils ont de la famille à voir, ou quand tu as des enfants, d'aller plus facilement en province avec tes gosses quand ils sont en vacances, et toi tu bosses de la maison, tu les mets au centre aéré, tu les récupères le soir et ils sont à la campagne. Je pense que oui, là-dessus, il faut vraiment le penser différemment. Et les Américains, je pense, là-dessus, sont pour le coup plutôt en avance. Ils ont cette capacité... tu vois, d'avoir un job entre New York et San Francisco et tu te déplaces pas à chaque fois pour rien, donc tu calibres un peu ton business. Non, j'espère que ça va rester le truc positif. Il faut qu'on en tire quelque chose de positif de cette épreuve qui était pas souvent rigolote. Et moi qui suis quelqu'un de très urbain, qui adore les échanges, rencontrer des gens, sortir, mais comme tout le monde, les restaurants, les bars, c'est tellement la vie française, on en a tous un peu souffert. Je trouve que le truc positif à tirer de ça, c'est qu'on peut bosser et inventer une façon de travailler différemment.
Alors ce confinement et cette crise a chamboulé notre façon de travailler et de communiquer. En quoi tes clients en sortent différents de cette crise? Et comment tu vas leur parler? Et comment tu vas leur parler? Je pense que c'est le bon terme.
Ouais. Alors nous, ce qu'on fait sur Prescription, donc je t'ai dit, on a une super community manager qui s'appelle Eline, qui est vraiment en prise avec la communauté en temps réel tous les jours. Ce que moi, je perçois, c'est plusieurs choses. La première, c'était, je te dis, surtout au début d'ailleurs, en plus, le besoin de rassurance, de savoir ce que tu te mets, savoir où va ton argent, tout bêtement aussi, tu vois, quand tu achètes un produit cosmétique en e-commerce. Tu mets ta carte bleue, puis tu le reçois quelques jours après. Donc, en moment de confinement, ça met un peu plus de temps. Donc, tu veux savoir où tu mets tes sous. Et tu veux aussi, moi, j'ai été beaucoup touchée par ça, donner tes sous à une boîte qui a du sens et tu vois de l'humain derrière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, c'est mon petit prisme à moi. Mais j'étais hyper touchée par toutes nos consos qui, je te dis, qui nous ont soutenues au début quand on savait pas si on allait pouvoir maintenir les envois, etc. Et je dis, mais continuez de me prélever, je les récupérerai après les box si la poste marche pas. Moi, je vous soutiens. Le fait d'avoir un visage, et je pense que toi aussi, tu le vois sur ta marque, d'avoir un visage derrière, tu te dis, j'achète pas qu'un produit, j'achète une aventure humaine, je soutiens ces gens-là. Et je trouvais ça super. Mais donc, sur nous, c'était génial. Et encore nous, tu vois, on a tellement de chance. C'est un business que je maîtrise, mais qui était conçu comme ça parce que je voulais un vrai programme beauté, etc. Mais c'était de l'abonnement. J'ai pas fait de l'abonnement il y a 3 ans et demi, 4 ans, 10 ans, ça me servira en cas de confinement. Mais l'abonnement, c'est un super truc parce que les gens t'ont testé avant et puis voilà, tu rentres dans leur routine. Mais je pense que même maintenant, les gens se disent, si je descends en bas de chez moi, c'est pour soutenir mon petit commerçant en bas de la maison, je vais acheter des fleurs chez ma fleuriste. Enfin voilà, je pense qu'on s'est rendu compte aussi que le retail allait prendre méga cher, et ça c'est sûr, et que alors peut-être que parfois il y a trop de boutiques, trop machin, mais ceux auxquels tu tiens, tu y retournes. Et je pense que c'est le mouvement, là je suis encore un peu dans ma campagne, mais moi en tout cas c'est vraiment le mouvement que j'ai envie d'accompagner. C'est le mouvement des artisans, c'est ton coiffeur, la personne qui s'occupe de toi, enfin voilà, enfin tu as envie de donner tes sous à des gens qui ont un visage peut-être un peu moins à des chaînes hyper loin ou hyper obscures, etc. Je pense que ça va être important. De même que je me permets en parallèle, et tu es très bien placé quand même pour le savoir aussi, c'est je pense qu'on va se dire il faut donner du temps, de l'attention, de l'argent en tout cas à des marques françaises. Il faut qu'on fasse revenir l'industrie en France, il faut qu'on soit plus autonome à plein de niveaux. Il y a des niveaux qui sont vitaux, et on l'a vu, c'était les médicaments, faire revenir de la recherche fondamentale pour des vaccins, des choses comme ça, etc., que tout soit pas exporté dans plein de pays, dont la Chine. On l'a vu de façon criante pour les masques aussi. Mais je pense qu'à un plus petit niveau, il faut se dire si ça se tend, parce que tout le monde dit, alors je suis pas du tout spécialiste de la chose, etc., mais que des pandémies, il y en aura d'autres. Alors, est-ce que c'est dans 2 ans ou est-ce que c'est dans 10 ans? Je sais pas. Mais il faut qu'en France, on arrive à être beaucoup plus autonome sur plein de sujets et que donc le consommé français va revenir très fort. D'ailleurs, à un petit niveau, on l'a tous vu sur la bouffe. On était tous hyper contents de se dire les supermarchés remettent en avant des produits, des fruits et légumes français. On avait déjà cette démarche d'acheter de saison, mais là, on va acheter de saison et français. Et je pense que c'est hyper important, hyper important. Parce que sinon, on va se retrouver. Je pense qu'en fait, tu vois, c'est ce que je disais à une copine. Le Covid, c'était pas rigolo, mais dans notre malheur, ça tue que 4% des gens, je crois. Enfin, à la louche, je sais plus à combien on en est, ça dépend des calculs, etc. Mais en gros, je crois que c'est un peu ça quand même, le truc. Donc, c'est plutôt si t'es âgé ou si t'es à risque, etc. Mais c'est peut-être l'occasion de se remettre un peu d'équerre si demain ou dans 10 ans ou même dans 15, t'as une pandémie qui te tue 30 ou 40% des gens, comme je crois c'est le cas pour Ebola. Là, on rigolera beaucoup moins. Et donc, je me dis, c'est peut-être la petite répétition, tu vois, qui fait que on se dit ok, ça nous a vraiment souligné les points faibles. Tu vois, un hôpital qui va pas bien, des métiers qui sont trop exportés, et voilà. Et donc consommons français, oui, sans faire du chauvinisme un peu quand même.
Comment on peut se préparer justement là? Tu parlais du, c'est une répétition générale avant peut-être quelque chose de plus violent, que ce soit des épidémies ou des catastrophes climatiques. Comment on peut préparer son business à devenir moins fragile et à affronter des crises aussi violentes?
Ça, c'est difficile ce que tu me poses comme question, parce que je l'avais jamais vu de cette ampleur-là, même si, tu vois, avec l'équipe de prescription, oui, évidemment, on est hyper consciente des bouleversements climatiques, etc., et de ce qui peut arriver. Je pense que ce qui va arriver de facto, nous, on l'était parce qu'on était petits, mais ce qui va arriver de facto, c'est que les petites boîtes comme les grandes, maintenant, vont être plus dans quelque chose qui va être à l'économie. Je pense, a priori, en tout cas en Europe, j'ai aucune vision, j'ai l'impression que sur les marchés d'Asie, ça repart plutôt pas mal et que les mecs reflambent, se font plaisir. Moi, je pense que l'Europe, ça va être compliqué et je pense que pour faire grandir ta marque, on va être moins sur quelque chose. Tu sais, on entend beaucoup parler de marques qui sont soutenues à coups de millions en disant elles seront rentables, beaucoup notamment dans l'univers des startups d'ailleurs, elles sont rentables dans 5, 10, 15 ans et plus j'injecte des millions, plus ça va. En fait, je pense pas du tout. Je pense que là, on va naviguer beaucoup plus à vue, donc ça va être sur du court terme, ça va être sur un côté un peu bon sens paysan. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent et qui rachètent? Ça va être un peu ça. Et je pense que les gens seront peut-être un peu plus soucieux de la façon dont les marques dépensent de l'argent. Je dis ça, c'est pas tellement sur la cosmétique, mais tu vois, je fais beaucoup le parallèle. Alors, ça viendra aussi un petit peu. Je pense que il y a peut-être des voyages influenceurs. Nous, on n'avait pas les moyens de le faire, mais quand tu emmènes 20 nanas à Coachella pour faire la fête, etc., bon, est-ce que ton fond de teint, il est vraiment bien derrière? C'est quoi le lien, en fait, tu vois? Non, mais tu vois, en fait, en vrai, c'est un peu capillotracté, tout ça. Et je pense que c'est un peu pareil aussi pour les marques de mode. Tu sais, il y a eu beaucoup de... C'est Corinne Rothfeld qui a fait un défilé un peu at home. Il y a des marques qui ont abandonné le fait de faire des défilés. On sait que c'est la Fashion Week, c'est une espèce de gabegie carbone 14. Je pense qu'on va tous descendre un peu du piédestal, etc. Et on va tous se dire, est-ce que c'est vraiment utile à mon business? Et est-ce que c'est sain par rapport à ce que les gens vivent? Tu vois, il peut y avoir aussi peut-être un côté un peu, parfois, je trouve, indécent d'aller craquer des centaines de milliers d'euros dans des OP qui finalement sont juste là pour faire du buzz et qui parlent pas de ta marque et de ton produit. Donc voilà. Donc moi, je pense que, excuse-moi, pour répondre à ta question, je tergiverse, mais parce que je me construis ma réflexion en te le disant, c'est être très, une gestion de bon père, bonne mère de famille, parler du produit et de la communauté. Le reste, je vais pas dire on s'en fout, mais presque. C'est du plus et on n'en est pas là. Continuer vraiment un dialogue, et je pense que les community managers qui avaient déjà un rôle important mais vont devenir de plus en plus importants, c'est vraiment eux qui prennent le pouls, qui rassurent, qui donnent des infos. Voilà, avoir un système de logistique qui te lâche pas, ça c'est hyper important. Tu dis en cas de crise, que les mecs soient prêts à t'aider, à te suivre, etc. Et enfin, c'est avoir du sens par rapport à la consommation des gens. Se dire, il y a des produits qui sont plus pour les Européens. je pense, qui sont trop décrochés en termes d'usage, en termes de flamme. Et je pense beaucoup à la mode, excuse-moi, en te le disant, peut-être plus qu'à la cosmétique. Parce que la cosmétique, il y a quand même un effet et résultat assez immédiat, etc. Mais je pense qu'en termes de mode, etc., c'est, tu peux plus lancer à la figure des gens des sommes vraiment scandaleuses, etc. Même là, tu vois, je regardais, il y avait une influenceuse américaine que je connaissais pas du tout, mais qui a grosse audience là-bas, enfin, elle devait être connue là-bas, j'imagine. Je tombais sur son compte, justement, par Business of Fashion ou je sais pas quoi. Et la fille montrait un closet, donc c'est tout son vêtement, un walking closet. C'était littéralement plus grand que mon salon. Et elle avait, je sais pas, tu vois, c'était un compte en banque géant, son truc. Et je me suis dit, et c'était à la fois hyper beau, et en même temps, je me suis dit, mais, je sais pas si c'est hyper décent de montrer ça aux gens, ouais, en vrai. Tu vois, c'était même pas Kim Kardashian. Alors, Kim Kardashian, j'imagine même pas le truc. Mais tu te dis, en fait, tu vois, et alors le closet qui nous est tous rêvé quand on était plus jeune, c'est celui de Carrie Bradshaw, tu vois. Donc, il existe déjà, t'en as un. Donc, pour une Française, c'est déjà énorme de consacrer, je sais pas, 4 mètres carrés à un placard de vêtements. 4 ou 5, je sais pas. Et voilà. Mais ils faisaient rêver, mais c'était pas indécent. Là, c'est des espèces. T'as l'impression que c'est un showroom. C'était un truc de malade. Et je me suis dit, oh, mais la fille, et là, quand tu sais qu'aux États-Unis, ils ont perdu combien? Ils en sont à 20, 25 millions d'emplois perdus en 3 semaines ou quelque chose comme ça. C'est plus possible. Il faut quand même redescendre un peu sur terre. Sauf que la fille, elle était hyper jolie. Donc, en fait, en vrai, tu lui mets un t-shirt blanc, un jean et des baskets et elle va bien partout. Donc, ouais. Tu vois, donc voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi une idée de revenir à du raisonnable, revenir à des vêtements et des accessoires et même de la cosmétique, tu vois, un peu plus timeless, qui font l'épreuve du temps, qui sont des bons basiques, des choses fidèles, etc. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que le make-up souffre un peu. Je pense que tu auras toujours besoin un petit peu de fond de teint, un bon rouge à lèvres, un bon mascara, c'est jamais perdu. Mais je pense que des couleurs hyper extrêmes, des trucs, voilà, c'est peut-être plus pour une génération que je connais moins, la Gen Z ou les millennials. Mais en vrai, sinon, une grande partie des femmes vont se recentrer sur des bons basiques qui font confiance, qui t'accompagnent, des belles matières. Et en cosmétique, des produits pas trop galères à utiliser. Je sais que c'était la vague des cosmétiques coréens, là, tu sais, pendant 5, 6 ans, 7 ans de cosmétiques avec du layering, des trucs en 14 étapes et tout. En vrai, bon, ça nous a rajouté une ou deux étapes de plus en France, etc. Mais moi, je pense que, tu vois, on fait tous des conf calls sur Zoom, des trucs comme ça, et finalement, tu te montres, t'as fait le minimum vital, un peu d'highlighter ou un peu de blush, et ça passe. Je te dis, bon, ben, ça passe, quoi. Moi, tu vois, voilà, j'étais à la campagne, donc c'est ce que je disais, j'en ai un peu souffert. À la fin, j'avoue, j'en ai souffert. Là, ça fait 7 ou 8 semaines que je suis à la campagne, et au départ, je pensais partir pour 15 jours, 3 semaines. Donc, j'ai littéralement 2 jeans, mais vraiment, j'ai 2 jeans, un pantalon de yoga, des tongs, une paire de baskets, 4 t-shirts, c'est tout. Et je me suis dit, on verra bien après, et comme on est parti un peu rapidement, ben, c'est chiant, mais finalement, tu t'y fais très bien, et tu te rends compte que ça passe, tu vois. Donc, bon, ça me manque. J'ai hâte de retrouver quand même des choses un peu plus métables. Mais je pense qu'on est tous en train de se dire, ce que je privilégie, en effet, c'est d'être bien dans ma peau. Donc, en effet, le bon soin qui va bien, mais c'est plus un moment. Tu vois, j'étais éclatée de voir toutes ces filles qui font du face yoga, tu sais, ou juste des abdos fessiers. T'as envie d'être bien dans ton corps physiquement. T'as envie de moments sympas. Donc, te retrouver avec tes copains, donc que ce soit sur Zoom ou autre chose. Mais t'as plus envie presque de moments que de garnir encore plus tes affaires. Je pense qu'on a envie d'être chouchouté humainement. En fait, ça manque. Ça, je pense que c'est la limite, tu vois, du digital. C'est la chaleur. Elle passe heureusement par les petites vidéos, les petits Instagram stories qu'on fait, etc. Mais on a envie de chaleur. On a envie de passer. Voilà, on a envie de passer du temps en terrasse, à boire des coups de blanc avec nos amis, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est sûr, ça nous manque tous, ce truc-là, quand même. Écoute, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. On s'était fixé 25 minutes. Peut-être une dernière question qu'est-ce que tu vas changer, toi, finalement, dans ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie?
Alors, écoute, moi, je t'avoue que ça arrive à un moment, mais c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. J'ai hyper envie d'être moins à Paris, d'être plus ou à la campagne ou à la mer. Et là, en vrai, sur le long terme, je sais pas comment j'ai... Alors là, ce qui est sûr, c'est que j'enchaîne. Je reviens un petit peu à Paris, justement, pour faire des catch-up, etc. Et je vais repartir derrière sur le mois de juin, probablement. J'ai vraiment envie d'autre chose et j'ai vraiment envie d'équilibrer plus ma vie. Donc voilà, moi, de façon personnelle, je me suis dit, comment est-ce que je peux m'inscrire une vie là-dedans sur laquelle je m'échappe de Paris de façon... pas un moment volé, etc. De se dire, ben voilà, c'est peut-être, je sais pas, tous les ans, je me fais 2 mois out, un mois en décembre, un mois en avril ou en mai, etc. Et ça va marcher. et ça va marcher très bien. Voilà, c'est vraiment, c'est dans mes plans et j'espère aussi que les filles du boulot pourront le faire, etc. On y arrive, on sait. Moi, l'idée, c'est pas de revenir, comme je le disais, il faut que ce Covid nous ait apporté au moins quelque chose de positif, en dehors de petites choses qu'on a pu apprendre par des vidéos à gauche à droite qui m'ont bien fait marrer. J'ai découvert plein de talents, ça m'a donné plein d'envie. Mais vraiment, ouais, moi, ça a été vraiment de me dire, je peux bosser d'un peu plus loin et ça marche très, très bien.
Trop bien. Parfait. Eh bien, écoute, merci infiniment. Bonjour à toute l'équipe de Prescription Lab et à très, très vite en vrai, en chair et en os autour d'un bon verre de vin.
Carrément, on va se faire ça. Exactement. On va se prendre un bon verre de vin dès que c'est possible et ce sera à toi. On va inverser aussi l'interview. Ça va être à toi de nous parler de tes projets pour ta marque.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Sarina. À bientôt. Salut.
Salut, Adrien. Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.